Je vais rapidement résumer la conférence de Monique Kusnirek, donc il y a 15 jours, qui a présenté les séances 5, 4 et 5 du séminaire sous le titre « La dialectique de la frustration » et qui nous a rappelé donc qu'au fond, dans l'enseignement de Jacques Lacan, à travers tout son enseignement, Jacques Lacan était passé successivement de paradigme à paradigme parlant de la jouissance. Alors, dans le séminaire qui nous occupe cette année, et particulièrement dans ce qu'elle nous présentait, dans ce qu'elle nous présentait il y a 15 jours, on travaillait à partir du deuxième paradigme, mais aussi du premier, et elle nous faisait remarquer qu'au fond, dans cette succession de l'enseignement de Lacan, lorsqu'il passait d'un paradigme à l'autre, il y avait toujours un petit temps de recouvrement, et que ça ne rendait les choses peut-être un peu plus complexes à certains moments. Alors, le premier paradigme dont il est question ici, il apparaît notamment dans « Fonction et champ de la parole et du langage ». Rappelez-vous qu'il nous a donné beaucoup de références il y a 15 jours, et je trouve ça toujours enrichissant de pouvoir repartir sur d'autres textes. Et donc, dans ce premier paradigme, la satisfaction, c'est-à-dire la jouissance, et le symbolique, qu'on peut appeler également le signifiant, sont complètement indépendants l'un de l'autre. Et donc, ce qui est de l'ordre de la jouissance, nous dit-elle, circule, j'ai repris le schéma L là-bas, sur l'axe imaginaire AA'. Il n'y a pas de perte, ça circule, je vais dire, en vase clos. Et c'est la fameuse formule qu'on retrouve d'ailleurs à d'autres moments, c'est « ou c'est moi, ou c'est lui ». C'est le fameux « ou bien » qu'on retrouve à différents moments dans l'enseignement de Lacan. Et donc, sur l'axe imaginaire, il y a le « moi » en petit a et son image dans le miroir, ou bien le petit semblable, celui à qui on peut s'identifier, c'est-à-dire également une sorte de rival. Et au fond, ce qui se passe, c'est que tout ce qui se passe sur cet axe imaginaire fait obstacle à tout ce qui se déroule sur l'autre axe, qui est l'axe symbolique, grand A, donc grand autre, et le sujet, donc AS. Alors, sur l'axe symbolique, donc entre le sujet et son autre, comme lieu de la parole, mais aussi comme un autre sujet, se déroule un procès symbolique, nous dit Monique Kusnirek, de reconnaissance du désir. Elle nous donnait par exemple le fameux exemple « tu es ma femme » lorsqu'un homme adresse ça à une femme. Au fond, il reçoit le message sous forme inversée, ça veut dire « si tu es ma femme, donc je suis en place d'être ton homme ». Alors, elle nous parle de la frustration qui circule sur l'axe imaginaire et c'est à ce moment-là qu'elle a dressé le petit tableau qui est là, donc les trois modes, privation, frustration, castration. Et elle nous a donc déplié durant la conférence que lorsqu'on parlait de privation, il s'agissait d'un manque réel d'un objet symbolique. Lorsqu'on parlait de frustration, il s'agissait d'un manque imaginaire d'un objet passé au statut de réel. Et dans la castration, un manque symbolique d'un objet imaginaire. Et donc c'est comme ça qu'il faut lire le tableau qu'elle nous avait donné il y a 15 jours. Elle a également bien insisté sur le fait que dans ce premier paradigme, au fond, qui se fonde sur cette opposition symbolique-imaginaire, la relation AA', on voit bien qu'il s'agit d'une relation qui est duelle. Et ça, c'est important puisqu'il n'y a pas encore à ce moment-là introduction du tiers terme, finalement, ni du quatrième terme. Dans le deuxième paradigme qui apparaît dans ce séminaire, là, la signification et la jouissance sont articulées. Et ce deuxième paradigme porte le nom de significantisation de la jouissance. Pas facile à dire. Donc là, satisfaction et donc c'est-à-dire jouissance et signifiant ou symbolique sont articulés. Et l'opération du symbolique sur la jouissance a comme effet une annulation de cette jouissance. Alors, dans la relation d'objet, finalement, Lacan pointe, et ça c'est très important par rapport à d'autres approches de la relation d'objet, que ce qui compte, c'est non pas l'objet comme complétude, mais le manque d'objet, c'est-à-dire un manque de satisfaction et de jouissance. Elle nous indique que ce deuxième paradigme prend ses racines dans un texte de 1957, donc qui est contemporain du séminaire qu'on voit cette année, qui s'appelle « L'instance de la lettre ». Et qu'au fond, jusque-là, l'autre était considéré comme lieu de la parole, et qu'à partir de là, il est appréhendé, donc le symbolique est appréhendé, non pas comme simplement lieu de la parole, mais comme structure du langage. Et de là, elle nous a sorti notamment, rappelez-vous, les formules de métonymie et de métaphore qui permettent l'articulation d'un signifiant à un autre, qui produisent une signification. Ça lui a permis aussi de rappeler que puisqu'il y a articulation et que ces articulations dépendent du sujet, on n'a pas tous évidemment la même lecture d'un événement et que la réalité à partir d'un même événement peut différer d'un sujet à un autre. Dès lors, dans ce paradigme, au fond, la question est que le réel se trouve pris dans le symbolique et le symbolique dans le réel. Et elle a pointé comme exemple, illustrant ce point de vue, la démarche d'ordre scientifique en nous montrant qu'au fond, lorsque, je ne le ferai pas parce que c'est mon porte-plume, mais lorsqu'on fait tomber un crayon, ça c'est un événement réel, ça tombe sur la Terre, ça ne vole pas, et que tout le discours scientifique va consister à tirer des lois, donc des lois symboliques à partir du réel. Donc, on peut dire que Lacan critique les tenants de la relation d'objet comme performée, comme déjà là avant. Et à partir de là, Monique Kuznirek va nous parler de la dialectique de la frustration. Alors c'est ce que j'ai rapidement remis au tableau. Elle l'a déplié en quatre temps et elle l'a illustré notamment à partir du cas clinique de la petite fille anglaise. Mais disons que dans le premier temps, on peut dire que le temps 1 et le temps 2 au fond sont vus du point de vue de l'enfant, alors que le temps 3 est vu du point de vue de la frustration du côté de la mère. Alors le premier temps, le sein maternel est pour l'enfant un objet bien réel et la mère a une présence symbolique. Dans le temps 2, la mère va décider de son absence. Et donc elle va devenir bien réelle puisqu'elle va manquer à certains moments et le sein lui va devenir, si j'arrive à lire ce que j'ai noté, symbolique puisqu'il y a une alternance de présence-absence. Alors dans le temps 3 du côté de, donc si on se met du point de vue alors de la mère et de sa frustration, l'enfant lui devient réel, le phallus devient symbolique. Le temps 4 est le temps d'introduction au fond du père dans la relation entre la mère et l'enfant. Le père qui, au fond, et c'est le temps qui mène à la castration, le père qui, au fond, vient dire à l'enfant « Tu n'es pas le manque de ta mère, tu n'es pas ce phallus imaginaire qui manque à ta mère. » Et il va lier un pacte symbolique avec l'enfant. Au fond, le nom du père sur le désir de la mère indique à l'enfant qu'il n'est pas le manque qu'il pense être pour sa mère. Et je pense que Monique Kuznirek avait clôturé un petit peu sa conférence à ce niveau-là. Alors ce soir, nous accueillons Philippe Lebois, qui est coordinateur de l'ensemble des conférenciers qui viennent chaque année à pas, coordinateur également de l'antenne clinique à Mons, où se donne aussi un enseignement d'orientation lacanienne sous forme de divers séminaires, présentations de cas. Tu es aussi psychanalyste à Mons et tu es aussi travaillant au Courtil, comme directeur thérapeutique d'un des groupes dont qui est CAPI ou...
Non,
c'est pas CAPI. De quel groupe es-tu directeur thérapeutique?
Carbonel, il s'appelle. C'est un groupe de jeunes adultes.
Voilà, jeune adulte. Au Courtil, donc, comme d'autres conférenciers qui se succèdent ici cette année, du côté... Alors lui, il est à Tournai même, oui. Alors voilà, pas à la frontière, mais dans la ville même. Est-ce que j'ai un peu brossé l'ensemble ? Voilà. Tu es aussi directeur de la, ou responsable de la revue de l'École de la cause freudienne cette année.
Oui.
Voilà. Eh bien, alors ce soir, tu vas nous parler des séances 6 à 8 sous le titre Dora et la jeune homosexuelle. Je te remercie.
Oui, bien, merci à Anne pour ces deux résumés, si j'ose dire. Celui de la conférence de Monique qui est fort bienvenu pour le départ que je vais prendre maintenant. Et pour cette gentille présentation qui fait évidemment un peu sourire, parce que quand on enroule tout ce qu'on fait comme ça, on me dit, je n'ai pas fait exprès de faire tout ça, je suis encore là ce soir. Mais c'est, les activités parfois se multiplient sans qu'on sache très bien, les arrêter. Alors, ce soir... je ne vais justement pas, vous parler pendant 4 heures, mais avec le, je vous dis ça parce qu'avec le titre que dans mon inconscient j'ai lancé au mois de juillet à Anne, Dora et la jeune homosexuelle, les 3 séances prévues pour ce soir du séminaire 4, Lacan y a donc passé lui 6 heures. Bon, en résumant un peu, il m'aurait, je pense, pour être intelligible, passé 2, 3 ou 4 heures. En tout cas, il était à peu près certain que je vous aurais maltraité en vous assommant, ce qui n'était absolument pas le but recherché. Je vais donc, ce soir, vous parler, me cantonner à l'un de ces 2 cas. Et j'ai choisi plutôt la jeune homosexuelle, pour différentes raisons. Tenant notamment à ceci, c'est qu'à l'antenne clinique de Mons, l'année dernière, moi j'avais passé un certain temps à commenter le cas d'Ora, et que, bon, je ne me voyais absolument pas me répéter. Je vais donc prendre ce soir mon point de départ dans une affirmation de Lacan qu'il a lancé par lui dès les premières leçons, et déjà commenté par Dominique Holvoet et Monique Kuznirek, quand il dit à peu près comme ceci, l'objet dont il s'agit en psychanalyse manque et ne vaut même que par son absence. Il n'y a aucune harmonie entre le sujet et l'objet. L'objet dont il s'agit est plutôt un objet qui manque et que quand on le trouve, il est inadéquat, ce n'est pas le bon, on en serait plutôt encombré. Cette absence qu'il organise, comme Anne vient vous le rappeler, de 3 façons différentes, frustration, castration, privation. Cette absence, ce n'est pas un pur et simple trou, un vide, mais c'est une absence opérante. Opérante parce qu'elle cause quelque chose. Elle cause quelque chose qui prend diverses formes qui toutes s'enracine dans cette absence primordiale. Un concept comme celui de désir, par définition, ne se comprend que s'il y a un manque. La pulsion, c'est pareil. S'il y a une pulsion qui n'est pas l'instinct, c'est qu'il s'agit là aussi pour le sujet de retrouver un objet dont il est séparé. Quant aux symptômes, si l'objet était adéquat au sujet, s'il y avait un rapport harmonique à l'objet, on ne parlerait guère de symptômes. En tout cas, cette absence, l'objet en psychanalyse manque. Il n'est pas de l'ordre de l'observation. Ça, c'est vraiment un trait extrêmement fort, c'est que l'objet a quelque chose qui est toujours illusoire, allusif, et qu'on ne touche jamais comme ça. Mais néanmoins, cette absence a une positivité, c'est-à-dire qu'elle a un effet. Et cet effet, vous l'avez remarqué, d'une certaine façon, c'est la vie même. Désir, pulsion, symptômes. Il est impossible de penser une vie humaine digne de ce nom sans désir, sans symptômes, sans pulsion, sans même fantasme. Après tout, ouais. On ne peut pas imaginer l'existence même d'un fantasme s'il n'y a pas à sa racine un objet manquant. Si l'objet était là toute éternité, il ne faisait que nous attendre. Si à chacun il y avait sa chacune, ce serait au moins ça de pratique, ou en tout cas de regrettable, c'est qu'il n'y aurait pas de fantasme. En tout cas, on ne serait pas là pour en parler. Pourquoi cet objet manque-t-il? La réponse de Freud est bien connue. C'est même devenu un conte aux ânes, c'est l'Œdipe. Pour aller très très vite, l'interdit de l'inceste valant pour les deux, la mère et l'enfant. Anne vient encore de le rappeler maintenant, c'est que l'interdit, ça vaut aussi pour la mère quant à l'enfant. La loi du père, en tout cas. Lacan, l'Œdipe, c'est une indication qui est toujours, je pense, utile à rappeler. C'est que pour Lacan, l'Œdipe est une notion qu'il a reprise de Freud, non sans faire une grimace. Lacan n'a jamais manifesté vis-à-vis de l'Œdipe un fol enthousiasme. En tout cas, il n'a jamais fait qu'une chose, c'est que cet Œdipe, il n'a eu de cesse que de le translater, le transformer, le déplacer ailleurs. Pour Lacan, c'est quelque chose qui ne se précise pas encore dans le séminaire 4, mais qui va s'accentuer au fur et à mesure de son enseignement. L'Œdipe, en tant qu'il fait loi de séparation entre le sujet et l'objet, n'est-ce pas, l'enfant séparé de sa mère, eh bien, ce principe de séparation, il tient déjà au langage. Point n'est besoin d'une petite histoire dramatique pour instaurer cette séparation. Le langage sépare. Si vous voulez une formule à retenir facilement, c'est l'Œdipe fait langage. Si vous voulez, d'une certaine façon, on pourrait lancer ça. Le langage est œdipien. Roland Barthes pouvait dire que le langage était fasciste, eh bien nous dirons ce soir, vous verrez peut-être pourquoi tout à l'heure, le langage est œdipien. Il y a un principe de séparation dans l'existence même du langage. Là où vous aviez... on peut se déplacer avec ça ? Non. Donc là où vous aviez au départ la jouissance, Monique vous l'a rappelé la fois dernière, eh bien, Lacan, à partir du moment où il amène la question de la significantisation de la jouissance prise dans le langage. Alors, c'est le temps 2, c'est le temps 2 de son enseignement, mais d'une certaine façon, le temps 2, le temps 1 est quand même dans l'enseignement de Lacan. Je ne vais pas dire que le temps 1 de cet enseignement de Lacan, quand la jouissance est encore imaginaire, c'est d'une certaine façon Lacan d'avant Lacan. C'est Lacan qui n'a pas encore commencé son enseignement, c'est quelque chose déjà qui prend sa racine dans le stade du miroir. Le Lacan classique, le Lacan de l'inconscient structuré comme un langage, qui, comme vous le savez maintenant, sa grande thèse, c'est déjà le temps 2. Eh bien, la jouissance, à partir du moment où on considère qu'elle est prise par le signifiant, qu'elle est significantisée, on pourrait le noter, si vous voulez, comme ça, pour résumer ce que Monique disait la fois passée, La jouissance est remplacée par le signifiant. Et elle s'en trouve écornée, amoindrie, diminuée. Annulée, disait Monique. On peut même préciser encore ceci. C'est que cette substitution du signifiant à la jouissance primordiale, qui est un temps mythique pour l'être humain, évidemment. C'est une jouissance sans langage, c'est un temps zéro, si vous voulez. Eh bien, cette substitution du signifiant à la jouissance, qu'on pourrait qualifier de métaphore primordiale, avant la métaphore paternelle dont Dominique vous a parlé à la première conférence, on pourrait dire qu'il y a une métaphore signifiante. Avant que ce ne soit organisé par ce principe d'autorité qu'est le père, avant le père, il y a quand même quelque chose qui vient faire métaphore, qui vient se substituer au désir de la mère. Eh bien, ce qui vient se substituer au désir de la mère, c'est déjà le langage. Eh bien, cette substitution du signifiant à la jouissance entraîne un plus et un moins. Le plus, c'est l'entrée dans le monde symbolique. Avec ce que ça ouvre comme nouvelle possibilité. Le monde symbolique n'est pas un monde sans jouissance. Mais c'est une jouissance écornée, en même temps c'est une jouissance transformée. Le moins, c'est une perte de jouissance. Alors cette jouissance n'a pas disparu pour autant, donc. Là c'est le plus, si vous voulez. Elle est transformée d'être prise dans le signifiant. Et ça a beaucoup de conséquences. Cette transformation, cette significantisation de la jouissance, là, a beaucoup de conséquences, dont l'une des plus claires est celle-ci. C'est que pour l'homme, pour l'être parlant, il n'y a pas de rapport direct à la nature. Il n'y a plus de rapport direct à la nature. Mais d'abord, on a d'abord un rapport au signifiant. Le retour à la nature, nous on est plutôt des adeptes du retour à Freud ou du retour à Lacan, mais le retour à la nature, je n'ai rien contre, je trouve ça moi très sympathique. Mais il faut savoir que ça ne peut jamais être qu'un retour. Et un retour particulier parce que il s'agit de retourner à un endroit où nous ne sommes jamais allés. L'homme n'a de rapport à la nature que médié par le signifiant, avec ce filtre du signifiant. Entre l'homme et le monde, il y a donc le langage, le mur du langage. La dimension proprement analytique est la suivante, nous dit Lacan, à la première page de la leçon de ce soir, page 95. Cette dimension proprement analytique réside dans l'ambiguïté des rapports naturels et des rapports symboliques. C'est-à-dire que ce qui est au départ naturel ou biologique ne cesse de se reporter sur le plan symbolique, où il s'agit alors d'assomption subjective en tant que le sujet, en tant que le sujet doit l'assumer. Il doit assumer donc quelque chose déjà un peu tordu, c'est qu'il a un rapport à la nature, ou même à sa propre nature, que dans une dimension qui est décalée, qui est décalée par rapport à sa... à un certain réel objectif. Et Lacan fait cette remarque tout élémentaire. C'est simple, n'est-ce pas? C'est que la dimension proprement analytique, c'est de prendre en compte ce décalage même, qu'il appelle cette ambiguïté. Effectivement, le langage est ambigu. Lacan dira beaucoup de choses sur le langage. Il en arrivera même à dire que le langage est bête. En tout cas, le langage est ambigu, est équivoque. Il ne dit jamais la chose même. Monique vous a rappelé ça la fois passée, quand on dit table, n'est-ce pas? Si on veut préciser ce dont il s'agit, il faut mettre des adjectifs, il faut mettre des précisions. Le mot ne dit jamais la chose. Prenons par exemple le sexe. Comme nous sommes pris dans le langage, il n'y a plus de mâle ou de femelle qui ont un rapport direct entre eux, qui est un rapport instinctuel. Mais il y a des hommes et des femmes, ce qui est fort différent. C'est que hommes et femmes n'ont déjà plus de rapport au sexe réglé par l'instinct, mais à quelque chose de très bizarre, dont on a commencé à vous parler la semaine dernière, dont je parlerai plus ce soir, qui est le phallus. Ça, c'est peut-être un fait qui est plus d'observation. N'importe quels enfants, c'est que... Que certains aient le phallus et l'autre pas, ça porte à conséquence. Certains l'ont, d'autres ne l'ont pas. Mais il y a un point commun entre garçons et filles, c'est que tous les deux, même à bas bruit, en font un drame. Ce drame, c'est l'Œdipe. Si vous l'avez, on peut vous l'enlever. Ce qui est une perspective inquiétante. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas drôle non plus. Qu'est-ce que vous êtes si vous ne l'avez pas? Vous existez déjà un peu moins que celui qui l'a. Mais vous pourrez peut-être l'avoir. Pour ça, il faudra qu'on vous aime. Il faudra donc se faire aimer. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous aurez dans certains cas? Vous aurez aussi un équivalent, dont il sera beaucoup question ce soir, qui est évidemment un phallus qui parfois amène plus de problèmes qu'il n'en résout, c'est-à-dire l'enfant. Donc vous voyez déjà, avec cette présence ou absence du phallus, on peut déjà vous raconter plein d'histoires. En tout cas, plein d'histoires se racontent. Ceux qui l'ont, les garçons quitteront l'Œdipe en sachant qu'ils pourront s'en servir plus tard et surtout ailleurs. Pas chez eux, maman, les sœurs, bon, ailleurs. D'autres qui sont définis comme ne l'ayant pas, châtrés les pauvres, eh bien, elles entreront dans l'Œdipe pour en avoir quelque chose. Celui qui l'a, le garçon, eh bien, il en sort, mais pour la même raison, parce qu'il l'a. Parce qu'il l'a et que du coup, il doit l'en user ailleurs. Donc c'est en l'ayant que le garçon quitte l'Œdipe. C'est le déclin de l'Œdipe. Le déclin de l'Œdipe qui s'installe à partir du moment où le garçon assume la présence du phallus du père. Eh bien, c'est pour la même raison, pour la raison même de l'existence du phallus, que la fille y entre. Vous voyez que elle, c'est pour l'avoir. C'est pour l'avoir qu'elle entre dans l'Œdipe, c'est-à-dire dans le rapport au père, et qu'elle ne se contente pas du rapport à la mère. Vous voyez que tout cela est un peu tordu, grotesque, parce que biologiquement, Lacan le fait remarquer tout au long du séminaire, mais notamment dans les leçons qui m'étaient dévolues ce soir, eh bien, biologiquement, vous savez bien que la fille ne manque de rien. C'est dans l'imaginaire qu'on peut penser qu'elle manque de quelque chose. Mais enfin, elle ne manque de rien. Elle dispose même d'un sexe propre, je ne vous apprends sûrement rien non plus. Mais en tout cas, dans cette dialectique oedipienne, c'est absolument ignoré. Alors, cette dialectique est un peu grotesque et pourtant indispensable. C'est qu'on aura beau assommer nos bambins de conférences précoces sur l'organe vaginal, par exemple, rien ne les empêchera de tomber en arrêt, toujours devant le contraste, la voir ou pas. Donc, tout ça pour vous dire que la première conséquence du fait du langage, l'une des premières conséquences du fait du langage, c'est que hommes et femmes n'ont pas de rapport direct entre eux. Mais ils ont un rapport au phallus. C'est le phallus qui les obnubile. Ils ont un rapport au phallus avant d'avoir un rapport entre eux. Encore vous dire ceci, quand je vous dis que la présence, la question, cette importance, cette prépondérance du phallus, ce prima du phallus, d'accord, pour montrer simplement que ça dépend du langage, que sans le langage, cette chose-là n'est pas pensable, c'est que, après tout, bien sûr, c'est une expérience visuelle. C'est vraiment le cas de le dire. Mais c'est une expérience visuelle qui dépend entièrement du système symbolique. Le système symbolique qui est binaire, 0 ou 1. Il faut bien avoir un système symbolique pour rester en arrêt devant un truc pareil. Donc, considérer qu'hommes et femmes ont un rapport au phallus, qu'on a ou qu'on n'a pas, avant d'avoir un rapport entre eux comme hommes et comme femmes, donc le rapport qu'ils auront entre eux comme hommes et comme femmes sera second. Sera une conséquence de leur rapport au phallus. Eh bien, ça donnera bien plus tard, la célèbre affirmation de Lacan, selon laquelle, vous savez, il n'y a pas de rapport sexuel. Lacan n'aura de cesse que de bien souligner l'exil. L'exil où est l'être parlant du rapport sexuel. C'est d'ailleurs un fil qui est présent dès le début de l'enseignement de Lacan, qu'entre hommes et femmes, ça ne va pas. Et qu'il y a là quelque chose, ça ne va pas tout seul. C'est un fil qui est constant dans son enseignement. On pourrait faire un livre de citations absolument passionnant où on trouverait toutes les citations les plus baroques, les plus curieuses, les plus inventives, tout au long de son enseignement. C'est vraiment un fil qui est absolument constant. J'en veux pour preuve que le non-rapport sexuel, c'est quelque chose qui date, seulement c'est la fin de l'enseignement de Lacan. Mais dès le temps 1 et demi, donc, le temps de recouvrement entre le premier et le second paradigme dont parlait Monique là, il y a 15 jours, qui vient donc de ce texte « Fonction et champ de la parole et du langage » qui est vraiment le premier grand texte de Lacan, après le stade du miroir. Le stade du miroir, c'est Lacan avant Lacan. Mais Lacan du temps de Lacan, si j'ose dire, c'est « Fonction et champ de la parole et du langage », 1953, il commence son enseignement à ce moment-là. Avant ça, Lacan était un psychiatre, psychanalyste célèbre, mais ça restait un météore. Son enseignement régulier, hebdomadaire, commence là. Eh bien, vous avez un petit des vers d'almanach qui sont en exergue d'un chapitre. Ce sont des vers d'almanach que certains connaissent, que moi je trouve toujours délicieux, que je vous propose même peut-être, comme certains vers de Victor Hugo, d'apprendre par cœur, et de l'apprendre à vos enfants. Enfin, je vous propose vraiment d'en faire vraiment une comptine. Hein. Entre l'homme et l'amour, il y a la femme. Entre l'homme et la femme, il y a un monde. Et entre l'homme et le monde, il y a un mur. Qui est donc le mur du langage. Il n'y a même que ce mur-là qui existe pour l'homme. Une seconde conséquence qui est importante, qui est fondamentale dans la psychanalyse, et sur laquelle Lacan n'a jamais cessé d'insister, y compris dans les séances de ce soir, c'est celle-ci, c'est ce qu'il appelle l'après-coup. Qu'est-ce que ça vient faire, l'après-coup, maintenant, après tout ce que je viens de dire, le phallus, on l'a ou on ne l'a pas? Eh bien, l'après-coup tient aussi au système symbolique. Et l'après-coup fait aussi que vous avez une perception bizarre des choses. Et que votre perception est toujours celle de l'après-coup. Que l'observation directe, ça reste quand même toujours un fantasme scientiste. C'est que entre ce qui se passe et vous, il y a un trou, il y a un écart. Pourquoi? Quand on parle de l'après-coup, c'est que cet écart, on peut simplement dire que vous comprendrez plus tard. Il faudra un temps pour comprendre. C'est logique. Pour comprendre le sens d'une phrase, voire d'un discours, il faut attendre que ce discours se déroule, qu'il se boucle. Il faut un temps pour comprendre. Il faut du temps pour ça. Autrement dit, vous ne comprenez le début d'un discours qu'à la fin, donc après coup. On s'engage toujours trop légèrement, pouvait dire Lacan. Je dis tout. C'est quelque chose que je répète souvent, mais si quelqu'un connaît la référence, ça me ferait grand plaisir, parce que ça fait des années que je la cherche. Je sais que Lacan dit ça, mais je ne sais plus où. Donc, si jamais quelqu'un la retrouve pour nous l'envoyer, je serai absolument ravi. On s'engage toujours trop légèrement parce que, forcément, quand vous parlez, vous ne savez pas ce que vous dites. Vous le saurez plus tard, quand vous aurez fini. Bon. Entre-temps, vous pourrez évidemment, à l'occasion, vous êtes un peu perdu, avoir fait quelques erreurs. C'est la vie. Lacan n'a jamais cessé de se corriger dans tout son enseignement, après tout. Hein? Quand il était au sixième paradigme, il pouvait se dire à l'occasion que le premier paradigme était un peu naïf. Il y a d'ailleurs aussi une remarque à faire dans l'enseignement de Lacan, c'est que quand Lacan est le plus sarcastique, et Dieu sait s'il peut l'être, Miller faisait remarquer que c'est souvent lui qui le vise. C'est que, sans le dire évidemment, mais il critique ce qu'il a pu penser... Dans un second temps, les écrits, par exemple, sont parsemés de petites notes « Où avais-je la tête ?» etc. Enfin, il n'a cessé que de se critiquer, forcément. Mais en même temps, c'est inévitable. Si vous ne voulez pas vous tromper, ne faites rien. Bref, nos rapports précoces, enfantins au phallus ne se révéleront aussi qu'après coup, bien plus tard. Ce qu'on peut observer des rapports de l'enfant et du phallus n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui nous intéresse, mais il n'est pas du tout dit que c'est ça qui est structurant pour eux. Ce qui est structurant pour eux, vous comme parents, vous ne le saurez peut-être jamais, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je souhaite à vos enfants en tout cas, parce que vous n'avez pas à le savoir, comme parents en tout cas, et vous le saurez plus tard. Enfin, ils le sauront plus tard. Vous serez amené à l'occasion que nos enfants se demandent ce qu'ils ont fait ou pas fait, mais enfin bon, on est... forcément réduit parfois à quelques conjectures ou à l'interprétation. Donc, nous ne sommes jamais dans le domaine du directement observable. Il y a toujours un décalage dû à l'existence même du langage qui fait filtre. Et donc, un décalage qui n'est pas seulement dans l'espace. Quand je parle de filtre, j'ai l'air de faire une métaphore un peu spatiale, à penser qu'entre... entre moi et vous, par exemple, il y a évidemment un filtre langagier qui enfin, ça peut sembler une métaphore dans l'espace qui est un peu imaginaire, Mais si on prend les choses de façon plus rigoureuse, il y a aussi un décalage qui est temporel. Le temps pour comprendre. Ce chemin est donc fort compliqué, peu naturel, et à y penser, dès qu'on y pense un peu, on voit qu'on devient forcément un peu intellectuel. Il n'y a pas moyen de ne pas être intellectuel. Ce que je me suis dit en préparant ça hier, c'est que être intellectuel, c'est finalement très ordinaire. Parce que c'est tout à fait propre à l'être parlant, en tant que tel. Un être parlant qui essaye de prendre au sérieux son existence d'être parlant, eh bien, forcément, il sera un peu intellectuel. Être intellectuel n'est absolument pas quelque chose de l'ordre d'une élite. L'intellectuel peut justement être un intellectuel à l'occasion pour oublier ce qu'il fait. Mais forcément, quand on prend tout ce chemin-là de façon très, très élémentaire, comme je le fais ce soir, forcément, je tiens déjà un discours intellectuel. Mais donc, je vous proposerai ceci, être intellectuel, eh bien, il n'y a rien de plus commun. Rien de plus répandu, nous sommes tous des intellectuels. Sauf ceux qui ne le veulent pas. Enfin, ils sont un certain nombre. Alors, ce chemin qui est donc peu naturel, Lacan dit qu'il l'est encore moins pour les femmes. Pourquoi ? Il vous dit ça, page 95. Ce n'est pas pour rien que la femme, je l'appelle aujourd'hui objet. Car elle doit entrer à quelques moments dans cette dialectique en fonction d'objet. Seulement, cette position est fort peu naturelle, puisque c'est une position au second degré qui n'a d'intérêt à être ainsi qualifiée que parce que c'est un sujet qui l'apprend. Pourquoi cette position au second degré ? Donc, la femme est un sujet comme un autre, je rassure tout le monde, mais seulement dans tout ça, il faut qu'elle fasse semblant d'objet, il faut qu'elle joue à l'objet. Alors, c'est déjà donc quelque chose forcément peu naturel, c'est déjà quelque chose de plus compliqué que pour l'homme, c'est déjà quelque chose de plus raffiné, oserais-je dire artificiel. Alors, pourquoi doit-elle faire l'objet ? Mais comme elle manque de ce phallus qu'elle désire, il faut qu'elle en arrive à se le faire donner. Et donc, peu ou prou qu'elle assume quelque chose du rôle de l'objet d'amour. Vous touchez là tout simplement aussi le talent des femmes pour se faire aimer, n'est-ce pas ? Elles font ça beaucoup mieux que nous. Un homme qui veut se faire aimer, c'est déjà, on sent déjà quelque chose de beaucoup plus tordu. C'est pas ce qu'on lui demande. Lui, on lui demande d'aimer. Je ne dis pas ça, qu'il fait ça beaucoup mieux. Et en tout cas, donc, les talents des femmes pour se faire aimer, jointes à leur côté métaphysicienne, il y a quelque chose de métaphysique dans la position de la femme, comme elle doit déjà assumer son rôle dans la dialectique phallique en étant au second degré. Ça la rend forcément déjà métaphysicienne. Eh bien, vous voyez donc que Lacan aimait beaucoup les femmes. C'est que tout simplement, loin d'avoir une misogynie, la misogynie, loin de pouvoir accuser la psychanalyse de misogynie, au contraire, Lodon a déjà forcément une fonction absolument éminente, à la fois métaphysicienne et à la fois ayant ce talent de se faire aimer. Je vous dis ça parce qu'il va être question de ça ce soir. Et on voit aussi que donc ce rapport, cette position au second degré, indique aussi combien le rapport féminin au semblant est privilégié et pour elle indispensable. Il y a un texte formidable de Baudelaire qui s'appelle Éloge du maquillage, où il explique bien que la femme en tant qu'on peut en parler, dit-il, eh bien forcément, c'est déjà un être naturel. Hein? La nature, la femme est toujours quelque chose qui touche à l'art. Hein? Et il fait du maquillage vraiment une entreprise artistique, une ouverture vers l'infini. C'est un très beau texte, je vous le recommande. Mais en tout cas, ça montre que le rapport féminin au semblant est privilégié, est indispensable, il n'y a de femme qu'au second degré. L'une des conséquences, c'est que quand elles sont un peu hystériques, ce qui, vous savez, leur arrive, eh bien, elles se soucient alors beaucoup du mensonge et de la vérité. Forcément, à force d'être au second degré, évidemment, souffrir d'une certaine, de ne plus savoir où est le nord, en tout cas, de se sentir parfois un peu perdu ou égaré. Alors, j'ai choisi ce soir, donc, de ne pas vous parler de l'hystérie, mais des femmes qui apportent à la question de leur existence de femmes, de leur position dans le monde, des réponses autrement décidées, plus décidées que ne sont les hystériques, c'est-à-dire les homosexuels, en mettant un bémol d'emblée. Je vais vous parler d'un seul genre d'homosexuel, enfin d'un seul genre, d'une seule homosexuelle, même pas du genre. Je vais vous parler d'une homosexuelle, une seule, celle de Freud. Et c'est du reste une différence entre hystérie et homosexualité féminine. C'est que la première, l'hystérique, ne cesse jusqu'au tourment de se poser la question de ce que c'est qu'être une femme. La seconde, l'homosexuelle, elle a la réponse de ce que c'est qu'être une femme. La différence entre les deux, tient justement au phallus. C'est que pour l'hystérique, ce phallus est toujours peu ou prou flageolant. C'est ce qui l'égare. C'est ce qui fait les problèmes avec leur père. Le phallus du père a toujours quelque chose de problématique. Pour l'homosexuel, vous le verrez ce soir, le phallus est bien là. Rien de problématique, rien de flageolant. Il est là et bien là, mais inacceptable. Cela dit, je vais aussi vous dire ceci avant d'entrer dans le cas, n'opposez pas trop hystérie à homosexualité féminine. Lacan, dans ce texte ici, il oppose plutôt hystérie à perversion. Et il fait de l'homosexualité féminine une modalité de perversion. Parce que l'homosexualité n'est pas une structure. Parce que ce n'est pas qu'une perversion. Il y a des homosexuels au féminin ou pas qui sont arrangés du côté de la perversion, mais aussi des homosexuels qui ne sont pas arrangés du côté de la perversion. Bon, je ne vais pas entrer beaucoup plus dans ces discussions, dans la métaphysique de la nosographie de l'homosexualité maintenant. Je vais parler d'une homosexuelle, et qui est celle de Freud, telle qu'elle est reprise par Lacan, qui plus est. Une conférence sur l'homosexualité féminine, c'est possible, mais ce serait alors une autre conférence, que je ne peux vraiment pas faire ce soir. Je ne vais pas entrer plus avant non plus dans la comparaison de l'hystérie et d'un cas d'homosexualité féminine perverse, comme Lacan le fait dans ses trois leçons, pour la seule bonne raison qu'il faudrait aussi que je passe trop de temps à expliquer ce dont il s'agit dans l'hystérie pour pouvoir comparer les deux. Je vous le répète, Lacan a pris 6 heures. Ce soir, il fallait choisir. Simplement, vous dire ceci, c'est que le cas d'hystérie, le cas d'aura, c'est celui-là qu'il s'agit, qui est le grand cas d'hystérie de Freud, est construit autour de l'impuissance du père. Le père est impuissant et donc ça rend Dora, sa fille, ça lui complique considérablement l'assomption de son sexe, l'assomption de son être, l'assomption de sa féminité. Elle a beaucoup plus de mal à la situer et il lui faut inventer toute une armature symptomatique pour y arriver. Bon, le cas de l'homosexualité féminine, il est construit sur l'inverse. La puissance du père, l'hyperpuissance du père, si vous voulez. C'est donc à ce niveau-là tout à fait le contraire. D'ailleurs, là où il y a, si j'ose dire, des doutes du côté du cadora, du côté de l'homosexuel, on va de certitude en certitude. Un point commun tout de même, pour les deux, la même passion. La même passion pour le mystère de la féminité. Alors, nous sommes en 1920, à Vienne, et Freud se voit adresser donc un jour une jeune fille d'origine hongroise, de la très bonne société viennoise. Le père est un industriel prospère. La mère, restée fort jolie femme, n'a abdiqué, dit Freud, aucune de ses prétentions à la séduction. Et la jeune fille de 18 ans, c'est Freud qui le dit, qui n'est pas spécialement, qui est un homme assez, pas spécialement allumé en tout cas, il la trouve aussi belle qu'intelligente. Il trouve aussi Dora très belle. C'est un certain poids quand Freud dit qu'une femme est aussi belle qu'intelligente. Si Lacan le dit, on se dit bon, oui. Pour Freud, je pense que c'est plus rare. Donc cette ravissante créature, je vais l'appeler comme ça, vient d'échapper à une tentative de suicide. Où elle aurait très bien pu rester, succomber, puisqu'elle s'était, elle s'était jetée par-dessus le parapet du chemin de fer urbain. L'affaire avait été suffisamment grave pour que l'on se décide à consulter Freud, malgré les préventions d'usage contre la psychanalyse. Il y en a toujours autant, des préventions d'usage contre la psychanalyse, mais je considère, pour ma part, que c'est très bien. J'ai toujours pensé que c'est bien qu'il y ait des préventions d'usage contre la psychanalyse, il ne faut pas qu'on soit trop populaire. La demande était singulière, parce qu'elle émanait des parents, du père surtout, parce que cette demande était impossible, puisqu'il voulait tout simplement que sa fille, qui se mettait à devenir, à entretenir une liaison absolument scandaleuse et spectaculaire dans Vienne avec une cocotte, une femme du demi-monde, vous verrez, une cocotte, vraiment. Enfin, Lacan l'appelle comme ça, mais c'est une femme du demi-monde, à moitié prostituée tout de même, eh bien, ça faisait absolument scandale, et il veut qu'elle redevienne comme avant. Et si, c'est-à-dire qu'elle retourne à l'amour des garçons, et en tout cas, il pense à la marier, si c'est ou la psychanalyse ou le mariage. Bon. Et la jeune fille, dans le même mouvement, eh bien, elle ne veut pas en entendre parler. Elle veut bien aller voir Freud uniquement parce qu'elle rend compte que ce qui se passe cause beaucoup de peine à ses parents. Malgré tout, elle les aime, elle ne veut pas leur causer trop de soucis. Donc Freud ne se fait guère d'illusions, sachant très bien que ce genre de choix d'objet homosexuel ne se modifie pas facilement, voire pas du tout. Et il fait d'ailleurs remarquer que... je n'ai pas noté la page, mais... Il fait une remarque assez amusante, c'est que... les gens paraissent se scandaliser qu'on ne puisse pas changer le choix d'objet, hein, mais il dit que c'est aussi difficile de transformer une homosexuelle ou un homosexuel en hétéro que l'inverse. Et il dit, parfois une ironie mordante, il se demande pourquoi on ne lui demande jamais le contraire. Pourquoi il n'y a pas de parents qui viennent dire, voilà, ma fille ou mon fils est homosexuel, pourquoi est-ce qu'il est hétéro, pourquoi est-ce qu'il ne deviendrait pas homo? Moi, on ne m'a jamais demandé ça non plus, mais pourquoi pas, hein? Mais Freud fait remarquer ça, oui, Freud peut être amusant. Et il a raison, évidemment. Alors, que se passait-il? La jeune fille faisait évidemment scandale. Elle faisait scandale depuis un bon moment, en affichant de façon spectaculaire une passion pour une dame du demi-monde. C'était une femme d'âge mûr, homosexuelle notoire, mais qui avait aussi un mari, des amants, qui se faisait entretenir. Et c'est une femme qui a vraiment une vie amoureuse, sentimentale, extrêmement compliquée, sulfureuse. Il y a une biographie de la jeune homosexuelle... que je ne vous recommande pas, et que j'ai lu pour ma part, et qui est... C'est vraiment une femme du demi-monde. Enfin, c'est vraiment une femme qui... Il y a aussi beaucoup de souffrance là-dedans. Enfin, elle a vraiment une vie sexuelle extrêmement baroque. Le père de la femme homosexuelle, mais tout ça le rend enragé. Il lui avait déjà donc intimé d'arrêter cette liaison, mais rien n'y faisait. Jusqu'à ce qu'un jour... En se promenant sous les fenêtres de ses bureaux, ces dames, bras dessus, le rencontrent. Elles allaient prendre... La principale activité, c'était de prendre le thé, c'était de prendre le goûter dans certains cafés viennois qui existaient encore à l'époque. Eh bien, donc, elles font ça, mais tout ça se fait dans le même monde bourgeois, et ça fait scandale. C'est plus tout à fait la même réalité que maintenant. Mais enfin, à l'époque, à Vienne, c'est encore autre chose. Donc, ces dames rencontrent le père. Le père les fusille du regard. La jeune homosexuelle s'effraye. Son ami, qui en a déjà un peu ras-le-bol de cette histoire, parce qu'elle a déjà une vie assez compliquée comme ça. Elle a d'autres amantes, et franchement, la jeune homosexuelle, elle ne l'attend pas, tout ça l'encombre. Et elle signifie que voilà que maintenant c'est fini. Tout ça se passe donc dans quelques secondes. Elle lui dit que c'est fini. Là-dessus, la jeune fille de 18 ans se précipite. Vers le pont du chemin de fer et saute. Elle se ronque un peu les os, dit Lacan, je ne sais plus trop ce qui se passe, mais enfin, Je ne sais même plus si elle se casse quelque chose, mais enfin, elle s'en tire. Elle s'en tire, mais enfin, elle a effrayé tout le monde. Alors, retenez ce mot. C'est que le mot en allemand, pour dire sa chute, c'est Niederkommen. Qui veut dire Qui veut dire accoucher. Niederkommen lassen, c'est laisser tomber. C'est un mot tout à fait insignifiant qui est tout à fait capital dans cette observation, vous allez voir. Alors, comment en était-elle arrivée là? Freud note que cette jeune fille ne s'était pas trop mal débrouillée jusqu'à ses 14 ans. Il n'y avait pas de névrose infantile, très peu, pas de troubles hystériques. Le petit jeu à touche pipi, j'ai un fait pipi, j'en ai pas, j'ai le phallus, j'ai pas le phallus avec les frères. Ça avait été, il fait remarquer ça quelque part, que ça avait été un moment un peu délicat, mais enfin, tout ça était passé sans trop de vagues. Elle avait en plus de ça donné tous ses apaisements à tout le monde. Vers 14 ans, elle se mettait à pouponner l'enfant d'amis de la famille. Donc, tout est pour les mieux dans le meilleur des mondes. Lacan fait d'ailleurs remarquer qu'on aurait déjà pu s'inquiéter de ceci. C'est la passion qu'elle prend pour un enfant réel. Ça, Lacan fait déjà remarquer que ça, c'est déjà un signe particulier. C'est comme on se peint. Comme tout ça doit se passer sur le plan de l'inconscient. C'est quelque chose qui doit rester, on pourrait dire, in petto, de l'ordre mental, de l'ordre des rêves, etc. Mais pas nécessairement de l'ordre comme ça du conduite et de la comportement spectaculaire. Il y a là quelque chose d'un peu déplacé, note déjà Lacan, d'un peu outré, enfin de quelque chose qui peut déjà donner à penser cette passion pour de cette fille pour un enfant réel. Mais, bon, cette réserve mise à part, eh bien, tout se passe bien. Et subitement, elle se désintéresse des enfants. Elle se désintéresse du bambin qui la passionnait jusque-là. Et elle se passionne pour ce qui n'existait pas, dont elle se fichait éperdument, mais qui était la mère. Elle laisse tomber l'enfant pour la mère. Elle laisse tomber les enfants et elle se met à se passionner pour des femmes d'âge mûr. D'abord la mère du bambin, puis quelques autres, et elle se met comme ça à être passionnément attachée aux amis de la mère. Freud ne met pas beaucoup de temps pour s'apercevoir de ce qui a fait problème. C'est qu'on lui amène la fille, donc il vient de se suicider, elle est homosexuelle, et puis quoi? Comment est-ce que tout ça est arrivé? Et puis Freud va chercher l'élément de bascule, ce qui a fait trauma. Ce qui a fait trauma, on va le dire comme ça. Eh bien, sa mère, quand elle avait 14 ans, a accouché d'un troisième frère. Donc, notre patiente a déjà deux frères, elle et la mère, quand elle a 14 ans, accouche d'un troisième, qui est un garçon. C'est un événement qui a causé un renversement complet de sa position subjective. Elle se met à faire l'homme, dit Freud, et non plus la mère. Et elle s'attache à une femme et non plus à un enfant. Cet amour est aussi singulier. Parce que cet amour qu'elle va développer, d'abord avec les femmes d'âge mûr, et puis avec cette femme dont il s'agit, cette demi-mondaine, eh bien Freud va tout à fait remarquer, d'emblée s'apercevoir que c'est une passion chevaleresque, digne de l'amour courtois, dans lequel n'intervient rien de charnel. C'est un amour qui vise la non-satisfaction, un amour idéal. Il qualifie ça, Freud, à un moment de type masculin. De type masculin, mais il le fait remonter vraiment à la plus haute tradition amoureuse, de l'amour courtois, un amour qui ne demande aucune satisfaction. Autrement dit, elle fait l'amour comme un homme, et vous allez voir, retenez déjà ça, elle fait l'amour comme un homme, mais mieux qu'un homme. Parce qu'elle se contente de faire le chevalier servant. Du reste, sa biographie l'atteste. La jouissance du corps ne l'intéressera, semble-t-il, jamais beaucoup. Ni avec l'un, ni avec l'autre sexe. C'est une passion chevaleresque. Le service de la dame. Mais scandaleuse. Au sens où elle se fait au grand jour. Et rien qu'au grand jour. Si c'était une passion qui était un peu moins chevaleresque, n'est-ce pas? S'il y avait du corps et du charnel là-dessous, ben là, ça ne se passerait pas un peu moins au grand jour. Hein? Non, la chambre ne l'intéresse pas. Elle préfère de loin le salon de thé. Et la bourgeoisie jase. Le père enrage. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Lacan va reprendre l'analyse de Freud en construisant, ce qu'il aime beaucoup, le schéma permutatif du cas, en trois temps, en traçant un parcours qui va de la frustration au symptôme comme énigme. C'est comme ça que vous avez peut-être vu cette expression. Un parcours, dit-il, qui va de la frustration au symptôme comme énigme. J'aime beaucoup, moi, cette remarque, le symptôme comme énigme, de poser le symptôme comme une énigme. Et je vous le recommande. Le symptôme est une énigme plutôt qu'un phénomène pathologique. C'est le propre de la psychanalyse, de prendre le symptôme comme une énigme, c'est-à-dire comme quelque chose qui ne se comprend pas, qui objecte au sens. Et d'ailleurs, vous n'aurez d'efficacité thérapeutique qu'à prendre le symptôme comme ça, comme une énigme. L'effet thérapeutique viendra ensuite. Si vous pensez à l'effet thérapeutique tout de suite, vous considérez le symptôme comme une maladie et vous n'y arriverez pas, vous risquerez même de l'aggraver. Alors, la frustration dont nous a parlé Monique, la frustration inaugurale, donc ce parcours qui va de la frustration au symptôme, cette frustration inaugurale tient en ceci. Dans une conjoncture inconsciente classique, elle attendait du père un enfant comme substitut du phallus manquant. Alors, qu'elle attende à 14 ans un enfant du père, de son propre père comme phallus manquant, c'est quelque chose qui évidemment n'existe qu'à l'état de fantasme inconscient. Ça ne peut exister que comme ça. Nous sommes bien d'accord. Et le problème, c'est que justement, ça ne reste pas, ça ne conserve pas ce statut de fantasme inconscient. Pourquoi? Parce que la situation se réalise. Elle se réalise comment? Parce que cet enfant arrive dans le réel. Il n'arrive pas à elle, mais à une autre, à sa mère. Le drame de la frustration tient donc en ceci, c'est la réalisation d'une formule inconsciente, la concrétisation d'une formule inconsciente, qui la rend, cette formule inconsciente, évidemment, insupportable, parce qu'elle est plus lourde, elle l'aggrave. Réaliser votre inconscient dans le réel, je ne vous le recommande pas. Réalisez même vos fantasmes, comme vous voulez, mais faut être prudent. Quand on est névrosé, la réalisation de certains fantasmes rend coupable, peut rendre très mal. Un fantasme, c'est fait pour rester causa mentale et pas pour se réaliser nécessairement in concreto. En tout cas, quand ça se réalise comme ça in concreto et de façon irréversible, comme cet enfant est là, eh bien, ça rend la chose pour elle donc beaucoup plus lourde. Moyennant quoi, l'inconscient du sujet doit inventer une nouvelle formule pour le supporter. Il doit s'adapter. Il doit s'adapter pour l'adopter. Il doit effectuer, on pourrait dire, un nouveau chiffrage de la situation réelle. C'est-à-dire que le fantasme précédent, entendre un enfant du père comme substitut au phallus manquant, comme cet enfant arrive et qu'il donnait à une autre, le fantasme inconscient précédent ne lui suffit plus pour se tenir dans le monde. Il faut que ce fantasme, il faut que son inconscient invente quelque chose. Hop, apparition d'un symptôme. Je vous le rappelle, la frustration, c'est un manque imaginaire d'un objet réel, par le fait d'un agent symbolique. Dit comme ça, c'est peut-être trop rapide. Donc, la frustration, c'est un manque imaginaire. Donc, vous manquez de quelque chose. Mais en même temps que vous en manquiez, c'est quelque chose d'un peu d'imaginaire que vous en manquez. Vous n'en manquez pas vraiment. Vous en manquez dans l'imaginaire. Vous imaginez que vous en manquez. C'est un objet réel. Mais comme vous en manquez d'une façon imaginaire, comme vous imaginez d'en manquer, bon. ça rend vos rapports avec cet objet réel d'une façon, disons, parfois difficile. Hein? Mais enfin, vous en manquez. Hein? Vous en manquez dans l'imaginaire. Hein? À partir du moment où vous en manquez vraiment dans le réel, hein, où ce manque est aggravé par l'éruption de cet enfant, hein, eh bien, les choses s'aggravent, les choses basculent. Alors, de quoi s'agit-il dans ce nouveau chiffrage? C'est-à-dire qu'autrement dit, dans cette nouvelle, dans cette... comme le père a donné un enfant réel à sa mère, et que donc la frustration, hein, la frustration se trouve vraiment accentuée, aggravée. Hein? C'était déjà son cas, mais le fait que le père réalise ça, il y a quelque chose donc qui rend la situation beaucoup plus pénible pour elle. Eh bien, donc, il y a l'apparition d'un nouveau symptôme. Alors, ce nouveau symptôme, en quoi tient-il? Eh bien, Lacan n'hésite pas à appeler ça un nouvel amour. En effet, elle se met donc à faire comme le père. Elle se met à faire comme le père, mais pourquoi? Mais pour lui montrer tout simplement ce que faire l'amour veut dire. Faire l'amour, ce n'est pas faire un enfant à une femme, qui en a déjà. C'est bien autre chose. C'est l'un des grands opposés de l'enseignement de Lacan. Aimer, c'est quoi? C'est donner ce qu'on n'a pas. Dans l'amour, il ne s'agit pas de donner seulement ce qu'on a. Ça, donner ce qu'on a, c'est, comme tout le monde sait, c'est facile. Hein? Mais de sacrifier bien plus. Hein? Il faut sacrifier son manque, c'est-à-dire à l'occasion son désir. Il s'agit de... Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux comme signe d'amour que de sacrifier un désir qu'on peut avoir? Un de mes connaissances qui disait que... Il vivait dans le sud de la France, dans une petite ville. Elle disait, je fais ça par amour. Moi, c'est dans une grande ville que je veux vivre, disait-elle. Bon. Elle n'a jamais habité la grande ville. Eh bien, c'est une façon, voilà un signe d'amour. Hein? Il sacrifie un désir. Vous avez une très belle définition de l'amour, page 140. Écoutez ceci. Supposons un sujet chargé de tous les biens possibles. Un riche, n'est-ce pas? De toutes les richesses. Un sujet qui est le comble possible de tout ce que l'on peut avoir. Eh bien, un don venant de lui n'aurait aucunement la valeur d'un signe d'amour. Les croyances imaginent pouvoir aimer Dieu parce que Dieu est censé détenir une plénitude totale, un comble d'être. Mais si cette reconnaissance à l'endroit d'un Dieu qui serait tout est seulement pensable, c'est qu'au fond de toute croyance, il y a tout de même ce quelque chose qui reste là. Cet être qui est censé être pensé comme un tout, il lui manque sans aucun doute le principal dans l'être, c'est-à-dire l'existence. Au fond de toute croyance au Dieu comme parfaitement et totalement munificent, il y a la notion de ce je ne sais quoi qui lui manque toujours et qui fait que l'on peut tout de même toujours supposer qu'il n'existe pas. Il n'y a aucune autre raison d'aimer Dieu, si ce n'est que peut-être il n'existe pas. Eh bien, c'est la leçon d'amour qu'elle fait au père. Freud le voit, mais ne l'interprète pas. C'est Lacan qui l'interprète. Il lui fait remarquer qu'effectivement, que l'amour dont il s'agirait, le véritable amour est celui-là. Un amour qui ne veut pas de satisfaction. Un amour qui vise le sujet au-delà de lui-même, dans son manque. Ça donne aussi la mesure de ce qui a été pour elle le scandale dans l'accouchement de sa mère. C'est pour ça qu'on avait déjà affaire à un sujet particulièrement quand même allumé au départ. Tout ça n'arrive pas sur un... Rassurez-vous, vous pouvez avoir des filles, quand même, y avoir d'autres enfants plus tard. Elle ne viendra pas, elle va pas forcément vous faire tout ce cirque que je vous raconte maintenant. Il y a un terrain très particulier, quand même. Hein? C'est qu'elle a pris l'accouchement de sa mère comme une faute contre l'amour. Pour une femme, c'est terrible, une faute contre l'amour faite par le père. Et donc, une faute contre l'amour faite par le père, c'est quelque chose qui décide même de son choix. Pour elle, le drame, c'est que ça décide même, finalement, de son choix d'objet sexuel et de son choix dans la sexuation. Si c'est ça un homme, merci bien. Si c'est ça le phallus, eh bien, fi donc, je m'en passe. Bon. Alors, donc, il faut quand même que je vous dise notamment aussi ce qui est important, les trois temps. Vous avez vu que dans le séminaire, il y a un schéma, Lacan fait plusieurs schémas qui reprend tout ça en trois temps. Le premier temps, il reprend ça sur le fameux schéma L dont on a parlé depuis le début de ces conférences. Le sujet, schéma qui organise donc les rapports du sujet et de l'autre sur le plan symbolique, et les rapports du moi et du moi idéal, donc le rapport entre semblables, le rapport imaginaire, sur cet axe-ci. Ce schéma est particulièrement intéressant et facile à utiliser parce qu'il montre, comme Lacan, comme c'était l'inspiration de Lacan à l'époque, à quel point le rapport symbolique, qui est celui qui est uniquement a bien posé les choses sur cet axe-là, qu'on peut, selon Lacan de l'époque, vraiment avoir sa place dans le monde. Le seul accord qu'on pourrait avoir avec soi-même, c'est si, somme toute, le rapport du sujet et de l'autre sur le plan inconscient, le plan symbolique, si le rapport dans le symbolique est assumé convenablement. Et l'imaginaire est là quelque chose qui fait écran. Le rapport imaginaire, ça vous distrait. Ça vous distrait du rapport symbolique. Vous trouvez là, déjà, l'une des raisons du dispositif analytique, n'est-ce pas? Ben oui. Le divan plutôt que le face-à-face. Divan qu'on n'utilise pas du reste dans tous les cas. Pour des tas de raisons qu'il faut expliquer. On peut très bien faire une analyse, on ne va jamais sur un divan. Mais en tout cas, il faut que le divan existe. C'est tout simplement, il y a l'idée qu'il faut essayer de rendre ce rapport-ci, n'est-ce pas, le plus dépouillé possible. Il faut dégager la route, il faut dégager le chemin. Ce pourquoi on peut dire, somme toute, on peut commencer une analyse en disant, écartons les faits. Les faits biographiques, ce qui se passe, enfin, les petites affaires, écartons. Et parlez-moi de vos rêves. Parce que les rêves, n'est-ce pas, vous mettent un rapport beaucoup plus direct entre grand S et grand A. Alors que les rapports avec le semblable, les copains, les copines, etc., c'est un monde d'ondes dans lequel on va tourner la soupe sans jamais avancer. La véritable conquête dans la psychanalyse se fait sur le rapport symbolique. Bon. Eh bien, donc, ici, à la place du sujet, n'est-ce pas, il y a la mère. Celle qui reçoit l'enfant. La mère qu'elle voudrait être, si vous voulez. Au moment, c'est le temps, disons, juste avant l'accouchement de la mère. Elle attend un enfant, c'est un enfant imaginaire. C'est un enfant imaginaire qui vient en équivalence au phallus imaginaire qu'elle attend. C'est l'enfant qui vient en substitut au phallus manquant. Dans le séminaire, Lacan parle de pénis imaginaire, c'est comme ça qu'il appelle le phallus. Alors ici, celui qui est censé opérer ce miracle, eh bien, vous savez, c'est notre saint patron, le père symbolique, ici. Bon, ça c'est le temps, ça va le temps 1. Alors, que se passe-t-il? Bon, ben là, il ne se passe encore rien, n'est-ce pas? On attend. On attend et vous avez bien compris qu'il vaut mieux qu'on attende encore longtemps. À ce niveau-là, il est urgent d'attendre. Ça, c'est un conseil dans ce cas-là. Eh bien, que se passe-t-il? Eh bien, patatras, le père donne réellement l'enfant, mais à la mère. Il y a donc une transformation de l'équation. Et cette transformation de l'équation, il se passe ceci. C'est que là où il y avait la mère, où il y avait le sujet qui l'attendait, etc., arrive l'enfant réel. Bon. Alors, Lacan écrit les choses comme ceci. Dans le temps 2, eh bien, il y a donc un effondrement de la situation. C'est que le père, en ayant fait ce qu'on appelle cette faute contre l'amour, eh bien, il déchoit. Il déchoit et il déçoit. Et il déçoit sa fille et il passe donc au statut de père imaginaire. Pour le dire encore autrement, on va mettre le troisième schéma, ce sera encore plus clair. Pourquoi le père tombe-t-il dans l'imaginaire? C'est qu'il y a une chute. Tout simplement, il a quitté son antre, il a quitté son repère, il a quitté la place. Il s'est manifesté dans la réalité de tous les jours, en faisant un enfant, en entrant sur le théâtre des opérations conjugales, familiales, etc. Le père en tant que symbolique déchoit. C'est pour ça que dans la clinique, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. C'est quand on a une fonction symbolique, faire attention à ce qu'on dit, parce que grande est le risque de la chute. Vous savez que Dieu, pour y croire, du moins Dieu judéo-chrétien, eh bien, il faut qu'il ait vidé les lieux, n'est-ce pas? Il faut qu'il ait vidé les lieux, il est au-delà de toute apparence. C'est le verbe. C'est pas quelque chose qui se voit. À partir du moment où il parle, à partir du moment où quelque chose parle, eh bien forcément, il entre dans la comédie humaine, il entre dans le théâtre imaginaire. Et donc, elle se met elle-même à faire le père. Elle se met à faire le père qui a un rapport à la dame. Voilà le nouveau rapport imaginaire, tel qu'il s'est installé. Donc, elle n'attend plus l'enfant du père, mais elle se met elle-même à faire l'homme qui aime une femme. Et pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pour expliquer... Pour expliquer à celui qui ne comprend rien, donc l'homme, comment, ce que c'est qu'un véritable amour. Alors, le temps 3, je ne vais pas le redessiner parce que c'est le même schéma, le temps 3, et qui fait tout, on pourrait dire tout le symptôme du cas, eh bien, c'est cette flèche-ci. Ça, c'est le temps 3, la flèche. Dans les schémas que vous avez dans les séminaires, ils m'ont longtemps demandé parce que on trouve trois schémas. Et la seule différence qu'il y a entre le schéma 2 et le schéma 3, eh bien, c'est cette flèche. Qui va du père imaginaire, qui est le nouveau costume de la jeune homosexuelle, je pense que ça c'était assez clair, cette flèche qui va donc de cette position, de ce point-là, à la dame. C'est là qu'est le véritable symptôme. Le véritable symptôme, c'est-à-dire, c'était peut-être pas qu'elle soit vraiment homosexuelle, le symptôme. Après tout, ça ne changera pas. C'est que de cette position-là, elle se sent obligée de faire scandale, de faire la leçon au père. Faire scandale, pourquoi elle fait scandale? C'est une façon de faire au grand jour, sur la scène du monde, de montrer au père comment se conduit avec une femme. Ce qu'il n'a pas fait. C'est un symptôme, parce que passer son temps à faire scandale dans le monde, à expliquer aux hommes ce qu'ils doivent faire et qu'ils ne font pas, etc., vous voyez le genre de vie que ça peut faire. D'ailleurs, ça l'a mené en contrebas du chemin de fer urbain. Vous avez aussi, au passage, cette chute du père qui passe de là à là. Ce ravalement du père, du symbolique à imaginaire. Autrement dit, cette aggravation des phénomènes imaginaires. Le fait que l'imaginaire flambe, c'est un cas où vous voyez que les choses flambent dans le réel, dans la réalité quotidienne, c'est-à-dire dans l'imaginaire. Notre réalité est faite de beaucoup d'imaginaire. Eh bien, que les choses flambent dans l'imaginaire, que les choses se mettent à parler dans l'imaginaire, que l'imaginaire se mette à comme ça à tenir de grands discours, à prendre beaucoup de place, c'est toujours symptomatique. Il y a toujours beaucoup de souffrance à ce moment-là. C'est là qu'est le véritable symptôme. Et c'est là dont Lacan fait remarquer que c'est peut-être sur ce point-là qu'on peut dire qu'il y a vraiment une perversion. C'est que les choses prennent trop de place dans l'imaginaire. Pour Lacan, quand quelque chose ne trouve pas sa place dans le symbolique, soit ça passe dans le réel, ou ça passe dans l'imaginaire. Au niveau des perversions, ça passe toujours dans l'imaginaire. D'ailleurs, il y a d'autres cas, il y a un cas célèbre de perversion transitoire. Il a été cherché dans la littérature analytique, le cas d'un analyste américain qui s'était débrouillé, selon Lacan, très mal, en interprétant trop dans l'imaginaire. Eh bien, ça a causé un symptôme de perversion transitoire. Bon. Voilà ce qui se passe quand on agit sur l'imaginaire. C'est pas sur l'imaginaire qu'il faut agir. Ça, c'est qu'un signe jamais. Il faut toujours essayer de rester dans le symbolique. C'est comme ça qu'on fera le moins de dégâts. Pour conclure, vous dire encore un mot du transfert. C'est que Lacan, vous avez vu, fait ici une place au commentaire étonnant de Freud sur le transfert. Freud, en effet, a entretenu un curieux rapport avec ce qui se passait. C'est que sa patiente se mit à faire des rêves contrastant absolument avec ce qu'elle disait par ailleurs. C'est que toute l'avancée de la cure, Freud fait remarquer qu'il y avait un rapport comme ça un peu... Il avait l'impression que ça lui faisait, autrement dit, autant d'effet que de l'eau sur les plumes d'un canard. Il dit qu'elle ressemblait à une femme du monde qui va voir, qu'on promène dans un musée, qui prend son lorgnon, qui dit « Oh, comme c'est joli !» Bon. Freud avait l'impression que tout ça ne servait pas à grand-chose. Et alors, à sa grande surprise, eh bien, il s'est aperçu que cette fille qui venait avec des pieds de plomb, qui n'en voulait pas et qui tout ça ne servait à rien, eh bien, justement, elle s'est mise à rêver. Et elle rêvait. Donc, quelque chose s'ouvre de l'axe SA, grand S, grand A. Quelque chose s'est ouvert. Quelque chose s'est ouvert, mais qui a laissé Freud, qui a désorienté, qui a dérouté Freud. Elle s'est mise à faire plein de rêves où elle se mariait et avait des enfants. Ça, c'est dans ses rêves. Quand elle ne rêvait pas, elle disait que la seule amour qui tienne dans sa vie, c'était celui qu'elle connaissait. Bon. Freud, vu les circonstances, Freud a considéré qu'il ne fallait pas être dupe, qu'elle cherchait à le tromper pour mieux le désillusionner ensuite. Autrement dit, qu'elle reproduisait avec lui le jeu cruel qu'elle menait avec son père. Freud, en plus, était ébranlé, parce qu'il se demandait si l'inconscient pouvait mentir. Il avait l'habitude de penser qu'il ne pouvait pas mentir. Alors il propose une explication contournée que je vous épargne, mais note Lacan, il considère donc qu'il est visé, personnellement, ce qui est une erreur. Et il donne corps à ce désir, en la congédiant. Il voit qu'elle a le désir de le tromper, lui, comme le père, et que donc l'analyse n'est plus possible, et il la congédie en l'adressant, si on veut, chez une de ses collègues femmes. Bon. Alors, et il trouve que c'est évident. Lacan passe beaucoup de temps aussi à montrer en quoi Freud se trompe dans la clinique, et notamment il fait remarquer ceci qui voudrait être assez évident, c'est qu'à se mettre en garde contre les illusions, notamment de guérir la jeune fille, de la remettre dans le droit chemin, eh bien, il entre dans le jeu. À se mettre en garde contre une illusion, il n'y a pas de meilleur moyen que de se mettre à y jouer. Déjà dire « Oh là, moi, je n'y tombe pas », c'est déjà se mettre à y jouer sur le mode négatif. Et surtout, il rate le plus important, là où l'inconscient s'ouvrait. Elle rêve. Si elle rêve, l'inconscient peut mentir, il fait même que ça. Nous, on ne se pose plus cette question-là. L'inconscient ne fait que mentir. Mais ce qu'on prend au sérieux et qu'on prend comme un signe favorable, c'est que l'inconscient s'ouvre. C'est qu'elle rêve. Si elle rêve et qu'elle nous le raconte, c'est qu'il se passe quelque chose. Et surtout, donc, Il voit bien qu'il y a le désir de le tromper. Ça, Lacan est d'accord, il y a le désir de le tromper. Mais il lui donne corps. Moi, je ne me ferai pas tromper. Il ne l'interprète pas. Autrement dit, il confond transfert et répétition, ce qu'il ne faut jamais faire. Il y a bien sûr de la répétition dans le transfert, mais aussi toujours du nouveau, et surtout du nouveau. Le nouveau, c'était quoi ? Mais c'était que ce désir s'ouvrait à l'interprétation. Le désir de le tromper, elle veut le tromper comme elle trompait son père, comme elle se fichait de la gueule de son père. Oui. Oui. Hein ? Il y avait ce désir-là. Bon, mais qu'est-ce qu'il veut dire, ce désir ? Là où Freud s'est trompé, c'est qu'il a pris les choses au pied de la lettre. Il a considéré qu'il était visé comme le père, alors que le nouveau, ce qui est nouveau, ce qui est une répétition, c'est qu'elle désire le tromper comme le père, mais ce qui est nouveau, c'est qu'elle le lui dise à lui. Hein ? Il ne faut donc pas tomber dans la répétition. Freud n'est pas le père. Elle est en analyse et elle reste avec lui. Alors, ça veut donc dire quelque chose. Il y a au moins une demande d'interprétation. Il y a au moins une demande de quelque chose. On pourrait dire que la répétition dans cette affaire-là, c'est du semblant. Elle veut le tromper comme le père, elle veut se moquer de lui comme le père, oui, bon. Mais ça, c'est déjà tout comprendre. Hein? On ne comprend pas pourquoi elle rêve ça et elle adresse ce rêve à Freud. Ça, c'est nouveau. C'est qu'elle attendait là quelque chose. Et ça, Lacan considère que Freud a manqué. Voilà, il est 9h moins quart. J'ai tenu mes preuves. Si je vous raconte Dora maintenant, ben alors on est parti jusque...
Merci beaucoup.
On a 10 heures.
Alors, j'étais assez sensible à cette conséquence que tu pointais au fond de cette notion de l'après-coup et d'un temps pour comprendre les choses. Et à deux niveaux. D'abord, peut-être parce qu'on est ici à l'université et qu'on mène des recherches en sciences humaines, et que c'est peut-être particulièrement important de se rendre compte que quel que soit le sujet qu'on étudie, autour duquel on tourne, on est toujours dans une compréhension d'après-coup. Et j'irais même encore plus loin, est-ce que c'est d'une compréhension qu'il faut parler ou d'une interprétation ? Et je pense que c'est une question importante pour toute personne qui cherche en sciences humaines de bien se rendre compte de sa position de chercheur. Et est-ce qu'il s'agit vraiment de comprendre et ou d'interpréter ? Et à partir de là, quel regard en tant que chercheur on peut donner sur son objet de recherche ? Ou sur son sujet de recherche ? On pourrait le dire comme ça aussi. Donc voilà, ça c'est une remarque peut-être par rapport à cette notion de comprendre et de l'après-coup et du rôle dans certaines choses qui peuvent se faire ici. La deuxième chose aussi, qui au fond suit ça mais sur un autre niveau, tu disais au fond des rapports enfantins au phallus, ça ne peut se révéler que dans l'après-coup. Et on ne peut avoir une compréhension que dans l'après-coup. Alors, est-ce que c'est à nouveau une compréhension ou une interprétation ? Voilà, ça c'était peut-être ma question.
Oui. Alors, Lacan parlait souvent du miracle de l'incompréhension. Il disait à ses élèves, vous comprenez toujours trop vite. Ses élèves étaient aussi, à l'époque, une bande de psychiatres. C'était un club au début, c'était peu nombreux, mais des psychiatres, avec beaucoup de notables, voire de grands bourgeois, qui n'étaient pas spécialement accessibles aux... En tout cas, qui se faisaient... qui avaient sûrement l'idée qu'ils comprenaient trop vite. En tout cas, certains psychanalystes avaient l'idée qu'ils avaient là un appareil à tout comprendre assez rapidement, et Lacan a toujours parlé donc du miracle de l'incompréhension, parce que le miracle de l'incompréhension, c'est un miracle parce que vous acceptez d'être dérangé par quelque chose d'énigmatique. vous suspendez votre compréhension. Eh bien, ça demande déjà une ascèse. Enfin, à moins que vous soyez un obsessionnel particulièrement obnubilé qui a décidé de ne jamais rien comprendre, hein, ce qui existe aussi, mais disons que parvenir à faire place à ce qu'on ne comprend pas, de suspendre son temps pour comprendre, hein, c'est une ascèse, ça demande un effort. D'ailleurs, dans la clinique, on sait bien que il faut là parvenir à doser les choses de la bonne façon, de ne pas éterniser le temps pour comprendre, parce qu'il faut bien sûr que ça se boucle quand même. Si ça ne se boucle pas, ça ne va pas. Un analyste n'a pas à être... à ne transmettre que des questions. Donc, il peut très bien plutôt être de l'ordre de l'affirmation, etc. Mais il ne faut pas que ça arrive trop tôt. Trop tard non plus. C'est un métier difficile. En tout cas, ne pas comprendre et laisser les choses prendre leur temps pour se boucler, mais c'est déjà le parcours même de l'analyse, ça. D'une certaine façon, il faut attendre la dernière séance pour avoir le sens de la première. Il faut absolument faire ce bouclage-là. Hein, à ce niveau-là, entrer et sortir, c'est pareil. La sortie de l'analyse, il y a quelque chose dans la sortie qui se boucle avec son entrée. Même si l'entrée s'est passée bien plus longtemps avant. Hein, vous savez, comme c'est le schéma du graphe de Lacan, hein, cette affaire de l'incompréhension. Hein, quand vous parlez le premier mot, le deuxième, le troisième, n'est-ce pas, il faut un certain temps pour que les choses se bouclent et pour que ça vous donne le sens. Vous dites n'importe quel mot comme ceci, un mot que je prends souvent, c'est concupiscent. C'est seulement au sang que vous aurez le sens du con, si j'ose dire. Hein. Bon, eh bien, l'analyse, c'est ça. Hein, les mots sont piégeants. Oui, mots sont piégeants. Alors, que dire encore? Lacline.
Peut-être aussi poser.
Voilà.
De savoir si vous avez des questions.
Oui.
Se referme, mais et l'angoisse, qu'est-ce que vous en faites chez le patient? Parce que c'est quand même une condition inconfortable.
Tout à fait. Bon, je voudrais m'excuser pour commencer, c'est que je ne peux pas parler de tout en même temps. Et donc, vous avez bien raison de mentionner l'angoisse, c'est que l'angoisse cliniquement requiert là alors pas toujours se suspend de la compréhension, hein, voilà, mais l'angoisse, une fois que l'angoisse est logée à sa place, et pour que le travail puisse se faire, hein, il faut justement que l'angoisse soit logée à sa place pour que tout le monde puisse supporter ce suspens. Voilà, on peut le dire comme ça.
D'accord. Est-ce que cette angoisse, elle est donc à placer dans un...
L'interprétation, par exemple.
Oui, c'est ça. Oui. Un sens à donner aussi dans l'après-coup. Enfin, elle prendra sa signification dans la durée aussi.
Voilà. Mais à partir du moment où les choses sont comprises, elles se bouclent et c'est fini. Il s'agit que ce ne soit pas fini trop tôt. Parce que sinon, rien n'est élucidé. Voilà. Qui plus est, l'interprétation, je parle de formation de l'inconscient, mais la formation de l'inconscient, pour que l'inconscient s'ouvre, évidemment, il faut avoir suspendu cette compréhension. Il faut avoir, somme toute, tiré le bouchon du sens. La compréhension, le sens, c'est l'ordre de l'imaginaire. On comprend ça. L'ordre des significations, hein, ça ne venait pas dire, mais le signifiant, si vous voulez, ça ne veut rien dire. Les mots pris tout seuls, ça veut dire quoi? Rien. Beaucoup de mots, à partir du moment où vous les sortez de leur contexte, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Pour que les mots se mettent à signifier, il faut les lier entre eux. Le principe du dictionnaire. D'accord? Bon. Alors, à partir du moment où vous suspendez le sens, Alors, le sens, ce qu'on appelle la signification, la compréhension, c'est de l'ordre de l'imaginaire, la signification. Le signifiant, c'est le symbolique. Bon. Eh bien, ce que montre déjà le schéma L ici, c'est qu'il faut bien sûr. C'est cet axe-ci qui doit être rendu discret, le plus discret possible, pour pouvoir aller de ce côté-ci. Et le signifiant pris tout seul, 0 ou 1, parfois, ça ne veut rien dire. Il faut pouvoir prendre des signifiants comme ça, tirés de leur contexte, dans ce qu'ils valent comme réel, ce qu'on produit dans le jargon, dans ce qu'ils valent comme réel, quand ils sont séparés de leur sens. Alors, forcément, si les formations de l'inconscient qui sont sur cet axe-ci requièrent, de la part du patient, de suspendre sa compréhension, amener un rêve, même si ça vous paraît stupide, ça vous paraît sans intérêt, apportez-le quand même. Ne censurez surtout pas, ne faites pas le tri. C'est-à-dire, suspendez cet axe-ci. Au niveau de l'interprétation, il ne s'agit pas encore d'en remettre sur cet axe-ci, ça va devenir lourd. L'interprétation, à l'occasion, on peut se mettre sur cet axe-ci, aller du côté de la compréhension, et là, être affirmatif, assertif. Donc, il ne s'agit pas de se passer l'imaginaire. Il s'agit d'en user de la bonne façon. Alors, je disais que tout le monde ne supporte pas, après tout, l'absence, le divan. C'est vrai. Tout le monde ne supporte pas nécessairement se mettre ça en suspens, trop en suspens. Il y a des sujets avec lesquels il ne faut pas mettre ça en suspens. En tout cas, un face-à-face discret suffit. D'autres avec lesquels c'est pas. Enfin voilà. Il y a pas de mode. Vous avez compris qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Il y a une orientation, mais il n'y a pas de. On ne viendra jamais dans ces lieux, en tout cas moi, donner un manuel d'utilisation du divan, par exemple. Le mode d'emploi, on n'est pas du côté du mode d'emploi et du, comment on appelle ça, le guide des bonnes pratiques. Oui, il y a le guide des bonnes pratiques et l'autre, c'est comment un guideline, c'est ça? Oui. Voilà. Je me suis dit que je n'allais pas parler de ça. Mais bon. On est à la fin, donc ça va.